Et le journal est présenté par Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Le Japon autorise la création d'embryons animaux humains. Un chercheur veut grâce à cela répondre à terme à la pénurie mondiale de donneurs d'organes. Explication et analyse critique dans un instant.
Nous prendrons connaissance ensuite des réticences des professionnels du secteur automobile face à la nouvelle prime à la conversion en France. Elle est restreinte à partir d'aujourd'hui.
Les 116 migrants bloqués à bord d'un navire italien en Sicile seront accueillis par plusieurs pays européens. En Italie, le ministre Matteo Salvini signe ainsi une nouvelle victoire aux yeux de ses électeurs.
Amnesty International alerte sur une grève massive de la faim dans une prison égyptienne en ce moment. Zoom à venir dans ce journal sur les conditions de détention sur place.
Et puis nous nous intéresserons aux incendies qui ravagent la Sibérie. Le président russe Vladimir Poutine y envoie l'armée. Homère en a d'abord rêvé dans l'Iliade, comme d'une créature mi-lion mi-chèvre. Puis la scientifique française Nicole Le Dourian a dans les années 60 croisé des embryons de caille et de poulet, créant physiquement une chimère. C'est aujourd'hui au Japon qu'un pas de plus vient d'être franchi, un pas qui soulève de nombreuses questions éthiques. Un chercheur est autorisé à réaliser des embryons hybrides animal-homme. Il va cultiver des cellules humaines dans des embryons de rats et de souris, Ilan Malka.
L'idée de ce scientifique japonais est la suivante. Puisqu'il y a actuellement un manque criant de donneurs d'organes, pourquoi ne pas développer des cellules humaines dans des animaux et ensuite pouvoir transplanter celles-ci à des patients qui en auront besoin? L'expérience, menée uniquement sur des animaux, a déjà donné des résultats encourageants. En 2017, cette équipe avait ainsi développé, à l'intérieur d'un rat, un pancréas de souris. Ce pancréas avait ensuite été transplanté avec succès sur une souris atteinte de diabète et la souris avait été guérie. Dans un premier temps, Hiromitsu Nakauchi souhaite donc développer des cellules humaines sur des souris et des rats, puis dans un second temps, sur des cochons et des moutons. Ce type d'expérience était interdite au Japon jusqu'en mars dernier. La loi n'autorisait pas la croissance d'embryons d'animaux contenant des cellules humaines au-delà de 14 jours. Mais maintenant, c'est donc permis et il est même possible de transplanter ces embryons dans un utérus de substitution. Le feu vert a donc été donné par un comité d'experts du ministère des Sciences. L'approbation finale du ministère est attendue le mois prochain. Des bioéthiciens montent déjà au créneau et s'inquiètent. Les contrôles seront-ils suffisants? Est-ce que tout cela ne risque pas de créer des monstres façon Frankenstein? Le scientifique Nakauchi se veut rassurant. Il affirme que tout cela est pris en compte et qu'il procédera par étapes.
Merci Ilan Malka. Je précise que la France, elle, interdit de tels travaux dans sa loi de bioéthique. 250 000 personnes ont bénéficié de la prime à la conversion depuis le 1er janvier dernier en France. Mais combien à partir d'aujourd'hui? Cette prime à la casse change en ce jeudi 1er août. Son montant va baisser. Les véhicules concernés seront moins nombreux, plus propres. Et la prime sera désormais attribuée en fonction du revenu fiscal de référence. L'idée est de privilégier les ménages les plus modestes, mais le durcissement des règles pourrait en fait avoir un effet pervers. C'est l'analyse de Flavien Neuvy, il est directeur de l'Observatoire CTLM.
Sur le papier, très clairement, le dispositif cible en priorité les ménages les plus modestes, puisque les ménages très aisés n'auront plus la possibilité d'en bénéficier. Il n'en reste pas moins qu'il y a deux freins par rapport aux ménages les plus modestes. D'abord, c'est que c'est un dispositif qui va être plus complexe, et on sait que plus c'est complexe, moins les ménages utilisent les dispositifs d'aide publique. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que puisque les voitures qui pourront bénéficier de cette prime à la conversion sont moins nombreuses, forcément, les ménages qui auront les moyens d'en acheter seront aussi moins nombreux. Donc au final, très clairement, il y aura moins de véhicules qui bénéficieront de ce dispositif et donc moins de ménages modestes également.
Moins de ménages modestes, voilà ce que dit Flavien Neuvy. Il était interrogé par Margot Delpierre pour France Culture. Autre changement de ce 1er août, les tarifs réglementés de l'électricité. Ils vont augmenter de nouveau de 1,26% pour les 25 millions de foyers concernés. À l'inverse, les prix du gaz vont encore baisser de 0,5% en moyenne. Le département de Mayotte doit faire face à une mission hors du commun. Il est au bord de la saturation face aux mineurs étrangers isolés. Beaucoup viennent de l'archipel voisin des Comores. Ce ne sont pas cette fois les fonctionnaires ou les habitants de Mayotte qui s'en émeuvent, mais la Chambre régionale des comptes. Si elle note des progrès par rapport à 2016, le nombre d'enfants qui restent livrés à eux-mêmes, leur nombre reste très élevé. Sébastien Berriot.
Des enfants comoriens, parfois très jeunes, qui errent dans les rues de Mamoudzou, sans toit pour dormir. C'est une scène que les habitants de la capitale mahoraise ont pris l'habitude de voir. Des mineurs isolés, estimés à plus de 3000. Le conseil départemental a du mal à remplir sa mission. Jusqu'en décembre dernier, l'accueil en famille était l'unique mode de placement de ces enfants. Avec des assistantes familiales pas assez nombreuses, la Chambre des comptes évoque dans certains cas jusqu'à 10 enfants accueillis dans une même famille. Le rapport note qu'il y a eu des progrès. Le département, grâce aux dotations de l'État, a fait de cette question une priorité absolue depuis 2018. Du personnel a été recruté, des structures d'accueil collectives mises en route. Mais ce travail est insuffisant. La Cour explique que même les situations les plus préoccupantes souvent ne sont pas traitées. La volonté du département se heurte aux arrivées quotidiennes d'enfants clandestins. Pour Issa Abdou, vice-président du département de Mayotte en charge du social, il faut que l'État joue son rôle pour trouver une solution au problème.
Qu'on ferme le robinet, c'est un vœu pieux parce qu'on sait qu'il y en aura toujours, mais que ça soit pas à la fréquence que l'on assiste jusqu'ici. On a un schéma départemental de l'enfance avec des orientations très précises, mais qui sont faussées à chaque fois parce que lorsque vous êtes un père de famille et que vous élevez 4 enfants, vous faites des courses, vous dites voilà, c'est pour 4 enfants. Mais si en réalité ils sont le double, vous voyez bien que ça suffit pas. Et donc il faut que ce chiffre-là soit fiable et alors seulement on pourra projeter nos politiques publiques. Je pense que l'urgence c'est vraiment ça. Et ça, pardon de vous le dire, c'est une mission régalienne de l'État.
L'objectif à terme est d'atteindre les standards nationaux en matière d'aide sociale à l'enfance. Mais vu le contexte social et géopolitique de Mayotte, il faudra certainement attendre de nombreuses années pour y parvenir.
Car effectivement, le département de Mayotte est toujours revendiqué, rappelons-le, par la République des Comores. L'île avait par ailleurs été paralysée pendant plusieurs semaines l'année dernière, une année marquée par un important mouvement social contre l'insécurité et contre l'immigration.
Il est 8h06 sur France Culture. C'est la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Les 116 migrants bloqués depuis une semaine en Sicile peuvent quitter le navire des gardes-côtes italiens.
5 pays ainsi que l'Église italienne ont accepté hier de les prendre en charge. L'Allemagne, la France, l'Irlande, le Luxembourg et le Portugal. C'est le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui l'a annoncé lui-même sur les réseaux sociaux. Plutôt triomphant, Antonino Gallofaro.
Sur le plan intérieur, Matteo Salvini a remporté hier une nouvelle victoire. Il continue de tenir sa promesse de limiter l'immigration clandestine et de fermer les ports italiens. Avec chaque embarcation qui s'approche des côtes, il engage un bras de fer qu'il remporte à chaque fois. La plupart du temps, à en faire les frais, ce sont les ONG qui opèrent en Méditerranée. Mais hier, les migrants, devant être répartis dans 5 pays européens, sont descendus d'un navire militaire italien. La justice a ouvert une enquête, comme elle l'avait fait déjà l'été dernier. Il y a un an, le ministre de l'Intérieur et chef de la Ligue, le parti d'extrême droite au pouvoir, était accusé de séquestration de personnes. Mais quelques mois plus tard, en février, le Parlement avait voté contre la levée de son immunité, grâce notamment au vote du mouvement 5 étoiles, son allié au gouvernement, est pourtant très critique de sa politique migratoire. Mais rien, ni la justice ni l'opposition, ne semblent avoir d'influence sur cette politique. Et elle semble plaire. Début 2018, sur la promesse notamment d'une politique de l'immigration plus fermée, la Ligue de Matteo Salvini devenait le premier parti de la droite italienne avec 17% des voix. Après un an au pouvoir, la formation obtient 34% aux élections européennes pour arriver dans les derniers sondages cet été à près de 38% des intentions de vote. Tant qu'il sentira les Italiens derrière lui, Matteo Salvini ne risque pas de rouvrir les ports italiens.
C'était Antonino Gallofaro à Rome pour France Culture. L'inquiétude grandit en République démocratique du Congo. 2 malades sont morts d'Ebola. Une petite fille d'1 an, est atteinte d'Ebola. Les autorités craignent une nouvelle épidémie à Goma, ville de 2 millions d'habitants à l'est du pays. Ebola est déjà responsable de 1803 morts en 1 an en RDC. Le favori de la primaire démocrate, Joe Biden, aux États-Unis, a subi hier soir un feu nourri de critiques lors d'un débat télévisé avec ses rivaux. Ils ont passé au crible ses positions depuis son entrée en politique. C'était il y a près d'un demi-siècle. L'ancien vice-président de Barack Obama, 76 ans, s'est lui montré plus incisif qu'en juin dernier lors du premier débat. Washington l'affirme, le fils d'Oussama Ben Laden, Hamza Ben Laden, est mort. Le Pentagone ne donne cependant pas de détails sur la date et sur les circonstances de ce décès. D'après le New York Times, il aurait été tué lors d'une opération ces 2 dernières années. Mauvais traitement, décharges électriques, alimentation forcée. Amnesty International s'alarme face à la situation de prisonniers en Égypte. L'ONG évoque des conditions de détention cruelles et inhumaines. D'ailleurs, depuis 6 semaines maintenant, plus de 130 détenus sont en grève de la faim au Caire, justement pour protester contre leur traitement. Claude Guibal nous explique pourquoi.
La grève a commencé en juin, plus précisément 2 jours après la mort en plein tribunal de Mohamed Morsi, l'ancien président égyptien. Ce frère musulman élu au lendemain de la révolution, puis destitué par l'armée 1 an plus tard, malade, détenu à l'isolement pendant 6 ans, il s'est effondré durant une audience sans pouvoir être ranimé. En 2018, une commission britannique indépendante avait dénoncé ses conditions de détention. Le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies a depuis demandé une enquête pour éclaircir les circonstances de son décès. Et c'est bien en réaction à cette mort que les prisonniers de Tora se sont révoltés. La prison de Tora est la plus sinistrement célèbre d'Égypte. C'est là que le régime incarcère ses principaux ennemis, les islamistes, djihadistes ou frères musulmans, mais aussi plus généralement tous ceux qui, sous le couvert d'une accusation de terrorisme ou de sédition, sont arrêtés, détenus, parfois sans jugement, pour s'être opposés frontalement à Abdel Fattah el-Sissi, militant des droits de l'homme, jeune libéraux de la place Tahrir ou les blogueurs. Les ONG comme Amnesty International ou Human Rights Watch multiplient depuis plusieurs années les alertes. Le Parlement européen ou certaines instances onusiennes demandent à l'Égypte plus diplomatiquement de respecter le droit. Prévention des visites, choc électrique, maintien en détention malgré les ordonnances de remise en liberté, disparition forcée. Selon les ONG, il y aurait plus de 60 000 prisonniers politiques en Égypte, ce que nient les autorités.
Les prisons encore, mais au Brésil cette fois. Nous évoquions hier une mutinerie dans le nord du pays. Cette mutinerie a fait 62 morts selon le dernier bilan ce matin. C'est la plus meurtrière depuis 1992 dans le pays. La Chine étend son influence dans les organismes internationaux. La voilà à la tête de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. En tout cas, c'est un Chinois qui va la gérer. Il a été désigné face à une candidature française qu'on disait pourtant favorite. C'était sans compter la ruse chinoise et surtout les moyens financiers du pays, Nathanaël Charbonnier.
Sur les 15 agences internationales des Nations Unies, la Chine en dirige maintenant 4, dernière en date, la FAO. Le vote avait lieu en juin dernier et les Chinois ont sorti les grands moyens pour s'en emparer. Si l'on en croit certaines sources diplomatiques, ils n'auraient pas hésité à espionner ou à acheter des votes, notamment en Afrique. François-Yves Damon, du Centre français de recherche sur le renseignement.
Effacer une dette, c'est pas illégal. Si on a un vote en contrepartie, elle prête beaucoup d'argent et en contrepartie de certains avantages, elle efface des dettes. Et tenir la FAO, ça va leur permettre d'avoir à plus grande réglementation des produits dont ils ont besoin pour se nourrir.
Et à tout cela s'ajoute aussi le pouvoir d'influence, celui par exemple de la diaspora chinoise. Dans ce contexte, posséder la direction de la FAO n'est pas anodin pour Pékin, et même si son nouveau directeur est encadré par les 194 États membres qui la composent, il aura un vrai pouvoir. Rodrigo de la Puerta, directeur du bureau de liaison de la FAO à Bruxelles.
Il est la voix de la FAO, il participe dans toutes les réunions internationales, il travaille pour les États membres. Et le directeur général a le pouvoir d'engager des partenariats pour s'engager avec les secteurs privés et la société civile.
Pouvoir d'influence, pouvoir de décision et enfin pouvoir financier. La FAO dispose d'un budget de près de 5 milliards d'euros par an.
Et cette Organisation des Nations Unies pour l'agriculture s'inquiète notamment en ce moment des incendies à répétition et en Russie particulièrement. Pour y faire face, Vladimir Poutine a envoyé hier soir l'armée en Sibérie. Le feu a déjà ravagé près de 3 millions d'hectares de forêt ces dernières semaines. À Irkoutsk, près du lac Baïkal ou encore à Krasnoïarsk, les populations n'en peuvent plus, Juliette Jay.
Au secours, on étouffe. C'est sur les réseaux sociaux que les Russes ont appelé à l'aide. Des photos d'animaux agonisants et de villes recouvertes de fumée noire sont partagées en masse sur Twitter et sur Instagram. Vladislav Kaminski, 34 ans, habite à Krasnoïarsk, l'une des principales zones où l'armée va intervenir.
La situation des 2 dernières semaines était terrible. Il y avait de la fumée épaisse partout dans la ville. Ça m'irritait les yeux. Les gens autour de moi toussaient et des gens ont eu des problèmes d'asthme. Les années précédentes, on avait déjà de la fumée, mais seulement pendant 2 ou 3 jours.
Propagés par des vents forts, ces incendies ont aussi bouleversé les écosystèmes. De nombreux animaux, dont des ours, ont été aperçus en train de fuir la taïga. Choquée, l'activiste écologiste Olga Kozulina a lancé une pétition. Elle a demandé à Vladimir Poutine de déclarer l'état d'urgence dans toutes les régions touchées par les flammes.
C'est incompréhensible de laisser les animaux et les bois brûler comme ça. En tant que biologiste, je sais à quel point les incendies sont nocifs pour l'air et les rivières. La nature est notre maison. Si on n'en prend pas soin, on va mourir.
Olga a recueilli plus de 800 000 signatures et elle vient d'être entendue par le gouvernement. C'est aussi un soulagement pour l'antenne russe de Greenpeace qui réclamait la mobilisation de davantage de moyens financiers. Selon l'organisation écologiste, déjà 12 millions d'hectares de forêts ont brûlé cette année en Russie, une superficie supérieure à celle de l'Autriche.
Ces incendies-là sont moins étendus mais importants tout de même à l'échelle de la France. Dans le Gard, le feu a parcouru en 24 heures hier 480 hectares de broussailles et de forêts au sud de Nîmes. Le bilan naturel et agricole est catastrophique. Voilà ce qu'a dit hier le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Et pour apaiser les sols, les forêts, il y aura quelques gouttes, quelques averses ce jeudi, localisées toutefois sur l'Occitanie et sur le sud de la Nouvelle-Aquitaine. Partout ailleurs, les éclaircies s'annoncent encore belles. Ce matin, Météo France prévoit 23 degrés à Lille et à Bordeaux, 24 à Nantes, 26 à Paris et Strasbourg, 27 degrés dans la matinée à Lyon et à Nice.
Merci Clara Lecoq-Réal pour ce journal. On vous retrouve à 9h.